Bon mardi tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à Sur la glace, notre balado-diffusion qui traite de Ligue américaine, Ligue de hockey junior majeur du Québec, des espoirs également qui, lentement mais sûrement, s'approchent des rangs professionnels. On va parler également de la Ligue Midget 3A. On le fait presque à chaque semaine depuis le début de la saison. C'est déjà notre sixième édition qui arrive une journée en retard, comme on l'avait dit la semaine dernière. Alors nous sommes le 13 novembre. Mais on a un menu très chargé. On va, entre autres, s'entretenir avec le nouveau président de la Ligue Midget 3, notre collègue à RDS, Yannick Lévesque. On va également s'entretenir avec Sylvain Couturier, directeur général du Titan d'Acadie Bathurst. On sait qu'il y a eu un changement d'entraîneur un peu plus tôt cette semaine chez le Titan, le départ de Brian Lizotte et le retour du vénérable Mario Durocher. Alors, on va parler avec Sylvain dans quelques instants. Je suis allé faire un petit tour en Ontario hier et avant-hier. En fait, dimanche après-midi, j'étais à Owen Sound en Ontario pour aller rencontrer Nick Suzuki, cet espoir du Canadien qui a été acquis dans la transaction avec Las Vegas pour Max Pacioretty. Dans le cas de Suzuki, il connaît une excellente saison. Alors, ce soir à RDS, à Hockey 360, on vous présentera un reportage complet sur cette visite à Owen Sound et sur Nick Suzuki. Mais on aura quelques extraits d'entrevue du reportage qu'on pourra vous présenter dans quelques instants. On va d'abord parler de la Ligue américaine. C'est assez rare, hein? C'est un mardi et le Rocket joue à domicile ce soir. C'est la première fois là, en deux ans qu'il y a un match à domicile un mardi soir. Il y a un spectacle à la Place Belle hier d'un certain Tash Sultana. Excusez-moi, je ne connais pas ça, mais bon, la Place Belle était réservée demain soir. Alors, le Rocket reçoit ce soir les Marlies de Toronto. Alors, question de mettre la table, de parler de ce match et de revenir sur la dernière semaine. On va retrouver Raphaël Doucette, analyste au 91.9 pour les matchs du Rocket et collaborateur au RDS.ca. Bon matin, Raphaël.
Salut Stéphane.
Alors oui, ben je le disais en ouverture, un mardi soir à la Place Belle, ce sera une première en deux ans, les Marlies qui s'amènent. Évidemment, il y a toujours une espèce de rivalité avec les Marlies. On sait que l'an dernier, ça a été compliqué pour le Rocket. Là. Une victoire, 11 défaites contre les Marlies. Cette année, les Marlies, c'est une formation un petit peu plus accessible pour le Rocket.
Oui, exactement. On a perdu quand même des gros morceaux là, pour les Maple Leafs de Toronto, notamment Andreas Janssen, le Québécois également, Frédéric Gauthier en défense, des gars comme Travis Dermott et Justin Hall ont grimpé directement dans la Ligue nationale. Et c'est un peu ça hein, aussi, la Ligue américaine, Stéphane, quand on connaît du succès, bien, c'est sûr que ça attire l'attention de l'équipe de la Ligue nationale, mais malgré plusieurs pertes chez les Maple Leafs de Toronto. Les Marlies demeurent une équipe redoutable sur papier, mais sur la glace, depuis le début de l'année, c'est plus difficile. On est en milieu de peloton, tout comme le Rocket dans la division Nord. Mais je demeure persuadé que c'est juste une question de temps avant que les Marlies se réveillent.
Les Marlies, ouais, qui ont 2 victoires en 6 matchs à l'étranger, une fiche de 5 victoires, 5 revers et 2 revers en bris d'égalité. Alors, on verra ce soir donc ce match-là pour le Rocket, qui sera le match numéro 16 de la saison. Je reviens souvent là-dessus. Autant le Rocket de l'an dernier que cette année, on a de la difficulté à s'approprier cet amphithéâtre qui est la Place Belle. On a de la difficulté à gagner à domicile. 3 victoires, 5 défaites encore seulement cette saison. Oui, il y a eu des défaites crève-cœur. Là, on ne viendra pas sur tous les problèmes là, d'opportunisme, je dirais, en attaque, où on dirigeait beaucoup de tirs au but et on n'arrivait pas à marquer. Mais c'est donc compliqué pour le Rocket de gagner là, devant ses partisans?
Ben, la raison, moi, pour expliquer ces déboires-là un petit peu, je dirais que le Rocket est une équipe qui doit travailler fort pour avoir du succès. Et à domicile, peut-être qu'on se concentre davantage sur le spectacle, qu'on délaisse un petit peu là, ces bonnes manières-là, parce que si le Rocket ne travaille pas à 100%, on n'a pas du talent pur comme d'autres formations dans la Ligue américaine. T'sais, tu regardes un peu depuis le début de l'année, le meilleur buteur de cette équipe-là est Jake Evans avec 5 buts en 15 matchs. Sinon, on a un groupe là, de joueurs à 3 ou 4 buts. Donc, ça prouve à quel point on n'a pas de réel franc-tireur comme ça fut le cas l'an dernier avec Chris Terry. Donc, à domicile, on dirait que c'est qu'on y va davantage pour plaire aux partisans. Et aussitôt qu'on déroge le moindrement du plan de match pour un Rocket, ben, ça peut se transformer en défaite. On l'a vu là en fin de semaine, on était à Cleveland pour un programme double. Et puis, samedi, ça a été un petit peu plus compliqué. On s'est réveillé en troisième période. Mais le mal était fait dans les 40 premières minutes de jeu.
Ben revenons justement sur cette dernière semaine du Rocket. Elle avait commencé à Utica mercredi dernier avec une victoire à l'étranger, une deuxième de suite contre les Comets, puisqu'on se souvient que samedi précédent, le Rocket l'avait emporté contre Utica à la maison. Puis il y a eu ce voyage à Cleveland de 2 matchs où on est sorti avec une victoire et une défaite. Donc, somme toute, 4 points sur une possibilité de 6 à l'étranger. Dans la Ligue américaine, on va prendre ça à chaque fois là, sans problème.
Oui, si tu remontes même au week-end d'avant, là, on parle quand même de 6 sur 8 pour le Rocket au cours de leurs 4 derniers matchs. Donc, il y a de quoi être satisfait. On s'est replacé au classement et présentement, dans la division Nord, mis à part Rochester, on dirait que tout le monde, là, personne n'est capable vraiment de se démarquer dans la division Nord. Donc, le Rocket, présentement, la saison est jeune, mais est encore au plus fort de la course aux séries. Et pour ce qui est des 3 derniers matchs à Utica, on est revenu en force en deuxième période avec 3 buts sans réplique. Les Comets ont créé l'égalité 3-3 via un ancien de la LHMQ, Zach McEwen. Et là, surprise, Joël Bouchard a décidé d'envoyer Michael McNiven aux douches après avoir accordé 3 buts sur 17 tirs. C'est une surprise. Pourquoi? Parce que généralement, tu procèdes à un changement de gardien de but pour changer un petit peu le momentum. Et là, le Rocket avait explosé au début de la deuxième période. Donc, on pensait pas que McNiven serait retiré. Mais finalement, la décision a été payante. Ça a été une victoire contre les Comets. Et après le match, Joël Bouchard a expliqué sa décision comme une décision de feeling. Il aimait mieux envoyer Charlie Lindgren devant le filet plutôt que de perdre avec Michael McNiven. Et finalement, son équipe s'en est tirée avec les 2 points. Du côté de vendredi à Cleveland, ça a été un match plus serré que la victoire de 5-1 l'indique, parce que le 4e et le 5e but du Rocket ont été inscrits très, très tôt en 3e période. Donc, finalement, c'est rare depuis le début de l'année. On a pu bénéficier là, du côté du Rocket d'une période plus facile. Et samedi, tu le sais, Stéphane, c'est dur de remporter 2 matchs en 24 heures dans n'importe quelle ligue, mais particulièrement dans la Ligue américaine. Et là, on a perdu 4-2 à Cleveland. On a créé l'égalité 2-2 très tôt en 3e période. Un but chanceux de Byron Fraze qui nous a fait une énergie personnelle de 9 matchs. Mais tout de suite après, là, Alexandre Alain est allé écoper d'une pénalité en zone offensive. Ça ouvre à la voie aux Monsters qui ont marqué en avantage numérique. Et le 4e but a été inscrit dans un filet désert.
Quand tu regardes ça, on est à peu près quoi, là, 20% du calendrier découlé. D'ailleurs, tu as publié sur rds.ca ton premier bilan des joueurs que j'ai lu hier. Et honnêtement, ça rejoint un peu ce que moi j'ai vu. Évidemment, j'ai pas vu tous les matchs comme toi tu l'as fait, là, mais est-ce qu'on peut dire que Brett Kulak, c'est peut-être le joueur le plus régulier là, chez le Rocket, toutes positions confondues depuis le début de la saison?
Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Brett Kulak a connu peut-être 1 ou 2 matchs plus difficiles, mais sinon, là, ça paraît que c'est un gars qui a passé l'entière saison 2017-2018 dans la Ligue nationale avec les Flames de Calgary. C'est vraiment le général à la ligne bleue là, de Joël Bouchard. C'est lui qui est utilisé. C'est le seul défenseur, d'ailleurs, qui est utilisé sur la première vague d'avantages numériques. Il obtient beaucoup de temps de glace. Et ce que j'aime, c'est que depuis quelques rencontres, ben, on a placé la recrue Cale Fleury à sa droite. C'est signe à quel point Cale Fleury joue bien, mais c'est également un signe à quel point Brett Kulak peut être un bon professeur pour un jeune comme Cale Fleury. Donc, ces deux-là jouent beaucoup de minutes sur la première paire. Et tu parles de joueurs réguliers, sinon en attaque, moi, un joueur que j'aime beaucoup et qui me surprend honnêtement parce que je pensais pas qu'elle allait apporter autant d'attaques. Je le voyais davantage dans un rôle de soutien, mais c'est Alex Belleville. Belleville, là, depuis le départ de Kenny Agostino, a grimpé au premier rang des marqueurs de cette équipe-là. L'an dernier, à San Antonio, à 26 ans, c'était sa première saison complète dans la Ligue américaine, qui a terminé avec 34 points. Là, il s'enligne vers une saison d'une 60aine de points. Je dis pas qu'il va maintenir ce rythme-là, mais c'est vraiment une belle surprise, Alex Belleville, le gars qui travaille fort à chacune de ses présences.
Tu as parlé de la déception. Je te rejoins aussi un peu avec Hunter Shinkerock. Un but en 14 matchs seulement que 3 points. C'est un peu décevant dans son cas, là.
Ouais, non, c'est décevant. On est allé chercher contre Kirby Reichel de la part de l'organisation des Flames de Calgary. Un ancien choix de premier tour en 2013, tout comme Michael McCarron, tout comme Kirby Reichel d'ailleurs. Mais Hunter Shinkerock, j'ai l'impression qu'il patine, mais ça mène pas à grand-chose. Et puis, c'est pas un as de la défense non plus. Donc, Joël Bouchard voit un peu les choses de la même manière que nous, c'est-à-dire qu'il a fait dégringoler Hunter Shinkerock tantôt sur le 3e trio, tantôt sur le 4e. Pas beaucoup de minutes là pour l'ancien des Flames. Et puis, j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qui va arriver dans son cas, parce que là, on a quand même plusieurs attaquants disponibles en santé. On va en savoir davantage là, aujourd'hui sur la blessure de Nikita Yaspalas. Mais tu sais, s'il y a un jeune qui travaille plus fort qu'Hunter Shinkerock, qui peut accomplir un peu le même rôle sur le 3e ou le 4e trio, Ben, peut-être qu'il va être envoyé dans les gradins.
Un mot en terminant sur Nikita Sherbak. En principe, il a le droit de jouer un dernier match ce soir avec Laval. Je ne sais pas s'il sort en uniforme. Ça a été quand même difficile. Sherbak, un but en 5 matchs, 6 tirs au but. Il y a une rencontre, évidemment, qu'il n'a pas terminée. Il est parti après la première période. Il a déclaré forfait pour un match. On peut pas dire que le séjour de remise en forme de Nikita Sherbak aura été marqué d'un grand succès là, présentement.
Non, sans jeu de mots, je dirais que ça a été un séjour en montagne russe là, pour Nikita Sherbak. Il a été tantôt bon, tantôt invisible, tantôt vulnérable, tantôt sujet à revirement. Donc, on a vu vraiment là, tous les visages de Nikita Sherbak lors de ces 5 matchs-là. On va savoir là, tantôt à l'entraînement, là, mardi matin à l'entraînement du Rocket, si Sherbak va être dans la formation contre les Marlies ce soir. Sinon, ben, il va aller rejoindre là, à la fin de son stage de conditionnement le Canadien de Montréal. Mais tu sais, pour un joueur qui est arrivé à Laval en disant qu'il voulait prouver qu'il était un joueur de la Ligue nationale et qu'il était capable d'accomplir un grand rôle chez le Canadien de Montréal, ben, il n'a pas prouvé grand-chose dans ces 5 matchs-là. Et puis, pour y avoir parlé là, à maintes reprises, c'est certain que c'est un jeune homme qui cherche, un jeune homme qui est déçu, qui est frustré également par la tournure des événements.
Oui, et le Rocket, en fait, le Canadien slash le Rocket a ramené Aiden Verbeek dans l'entourage de l'équipe. Alors, peut-être que ça augure justement pour une absence de Sherbak ce soir. Et en tout cas, il y a Liev Palov aussi, comme tu disais, qui est blessé. Ben, ouais. Écoute, merci beaucoup, Raphaël, de tes commentaires. On va vous écouter au 91.9 ce soir, alors que le match du Rocket est à domicile contre Toronto. Et nous, à RDS, on sera là vendredi contre les Sound Tigers de Bridgeport qui seront de passage à Laval. Merci beaucoup encore une fois, Raphaël. À très bientôt.
À vendredi, Stéphane. Merci.
Merci. Alors voilà, donc c'était Raphaël Doucette, analyste au 91.9 des matchs du Rocket. Il collabore également au RDS.ca. Vous pouvez aller sur le site Internet de RDS pour voir son premier bulletin là, des joueurs du Rocket pour cette première tranche de la saison. Comme il le mentionnait, le Rocket est dans le milieu du peloton là, de sa section dans la Ligue américaine. C'est loin d'être perdu dans le cas du Rocket. Ce soir, donc, le match contre Toronto et vendredi, comme je le disais, RDS, on sera là en direct avec la visite des Sound Tigers de Bridgeport. Ça, c'est le club-école des Islanders de New York. D'autres nouvelles dans la Ligue américaine, bien, il y a Drake Batterson des Sénateurs de Belleville, cet ancien de la Ligue junior majeure du Québec, qui a joué également pour l'équipe Canada junior l'an dernier, qui a été choisi joueur de la semaine en 2 matchs, a récolté 2 buts et 5 passes et ça lui a valu un premier appel dans la Ligue nationale avec les Sénateurs d'Ottawa, donc Drake Batterson qui a été rappelé. Il y a un nouveau joueur québécois qui s'est amené dans la Ligue américaine également cette semaine, Maxime Comtois, qui a été cédé lui aussi pour fin de reconditionnement, fin de remise en forme par les Ducks d'Anaheim aux Gulls de San Diego. Dans son cas, lui, il a le droit de passer 2 semaines dans la Ligue américaine. Alors, il a marqué à son premier match Comtois. Donc, d'ici au 25 novembre, là, on va prendre une décision dans le cas des Ducks d'Anaheim. Est-ce qu'on ramène Comtois à Anaheim? Est-ce qu'on va le céder au voltigeur de Drummondville dans la LHGMQ? Chose certaine, on devrait le voir avec l'équipe Canada Junior au cours de la période des Fêtes. Comtois, qui n'a que 10 matchs de jouer dans la Ligue nationale et un 11e match le rendrait, donc forcerait les Ducks d'Anaheim, si jamais il y a une expansion dans la Ligue nationale en 2020-21 à Seattle, de protéger Comtois sur la liste de protection. Et ça, évidemment, les Ducks d'Anaheim, ils songent déjà, là, c'est de la planification. Alors, de ce que j'ai pu apprendre en discutant avec certains membres de l'organisation, 1 plus 1 faisant 2, ça ne me surprendrait pas qu'on voit Comtois là, dans la LHGMQ au plus tard, au début du mois de décembre. Au pire, on l'enverra carrément directement avec l'équipe nationale junior pour le début du camp à Victoria le 10 décembre prochain. De la Ligue américaine, on va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La nouvelle du week-end, ça a été ce changement d'entraîneur à Bathurst, alors que le Titan et Brian Lizotte en sont venus à la conclusion qu'on devait tourner la page. Et on s'est retourné vers le vétéran Mario Durocher pour succéder à Brian Lizotte derrière le banc. Alors, question de faire un peu le point là-dessus. On a pensé discuter avec le directeur général de l'équipe, Sylvain Couturier, qu'on rejoint à Bathurst. Salut Sylvain!
Salut Stéphane.
Écoute, je disais ça en entrée d'émission tantôt. Changement d'entraîneur dans le temps de l'Halloween, là, il y en a beaucoup dans la Ligue junior majeure du Québec. Presque à chaque année, c'est un peu à ce moment-là qu'on procède à une première évaluation. Là, il y a à peu près un tiers du calendrier qui est écoulé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la saison du côté du Titan avec Brian Lizotte, qui avait succédé, rappelons-le, à Mario Pouliot lorsque ce dernier est parti à Rouyn-Noranda?
Ouais, ben disons que Brian est venu ici à Bathurst il y a 3 ans. Puis quand il est venu, on lui avait dit que s'il arrivait quelque chose avec Mario, qui serait notre candidat là, pour le remplacer, peu importe ce qui arriverait. Sa situation a changé depuis 3 ans. Brian est maintenant avec 3 enfants, des enfants de 4 ans, 2 ans et 1 an. Puis, je pense que le sacrifice, là, il a réalisé, Brian, que le sacrifice était beaucoup. Il cherchait un certain équilibre là, entre le hockey et la famille, ce qui est très difficile là, entre Batters et Québec. Puis, on s'est assis dimanche midi, puis on en a discuté. Puis, Brian, avec le Titan, on a décidé que c'est peut-être mieux pour lui de retourner auprès de sa famille. Puis, non, Brian, je pense qu'il il a tenté l'expérience. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Mais en bout de ligne, je pense que pour le bien de tout le monde, je pense qu'il était mieux là, auprès de la famille qu'avec nous, avec le Titan.
Il faut dire aussi, dans un contexte où vous êtes en reconstruction après la conquête de la Coupe Memorial, c'était difficile l'agencement vie de famille, vie professionnelle, mais c'était difficile également sur la glace. Il ne faut pas se compter d'histoire. 4 victoires en 21 matchs. Oui, on pouvait s'attendre à ce que le lendemain de la Coupe Memorial ne soit pas évident, mais est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit si difficile que ça?
Non, pour être honnête, non. Ça aussi, on en a discuté. Écoute, on pense toujours qu'on a une meilleure équipe que les 4 victoires, 16 défaites qu'on a. Là, on compte quand même des éléments quand même assez importants au sein de l'équipe, là, en commençant par un Noah Dobson. Mais c'est surtout les résultats finaux. Je pense que les marques sont... on s'attendait d'être compétitifs. Nos résultats finaux n'ont pas été ce qu'on s'attendait. Je me souviens, il y a 4 ans, quand Mario est arrivé... en poste, on était en pleine reconstruction aussi, puis on a quand même perdu 20 matchs là, par la marge d'un but, ce qui n'est pas le cas présentement. Mais ceci étant dit, je pense que, écoute, tu sais comment c'est les lendemains de veille, comme qu'on dit, la Coupe Memorial, c'est toujours difficile, puis on s'attendait là à ce que ce soit difficile cette année. Mais peut-être pas autant difficile qu'on vit présentement.
Écoute, si ça peut te consoler, Sylvain et Regina, 7 victoires, 12 défaites, et Swift Curren, 3 victoires, 18 défaites. Alors, c'est deux équipes qui ont participé à la Coupe Memorial aussi en mai dernier. C'est certain que c'est pas évident. Sylvain, vous avez décidé de vous retourner vers quelqu'un que tu connais bien, avec qui tu as déjà travaillé, le vétéran Mario Durocher. Alors, on passe d'un entraîneur recru en tant qu'entraîneur-chef dans le circuit à celui qui a peut-être passé le plus de temps derrière un banc dans l'histoire de la Ligue. Si on additionne ses matchs comme adjoint et comme entraîneur-chef. Est-ce que ça a été pour toi un choix naturel de te retourner vers Mario Durocher?
Oui, écoute, c'est un choix, tu l'as dit, naturel. Un, on se comptait très chanceux qu'il soit disponible là, avec les événements qui sont arrivés. Mais au-delà de ça, j'ai eu une très bonne relation quand j'ai travaillé avec Mario ici à Batters. On a toujours été restés très, très proches. Écoute, Mario a été sûrement un candidat là, de choix pour nous. Comme je te disais là, un peu plus tôt, on avait fait des promesses à Brian qu'on a tenues. Puis, mais c'est certain que ça a été un choix logique, un choix facile pour moi là, quand j'ai vu que Mario était disponible. Ça a été rapide comme décision, mais on sait ce qu'on a, puis on sait ce qu'on achète en Mario Durocher, puis on est bien content de l'avoir Batters.
Alors, il a signé un contrat pour terminer la saison cette année, plus 2 autres années. Je lisais hier dans l'Acadie Nouvelle, je crois, au Nouveau-Brunswick, où Mario Durocher disait « Je veux ramener le fun un peu », parce qu'en ce moment, c'est lourd dans l'entourage de l'équipe, avec la fiche que vous avez, le fait que vous avez de la difficulté à marquer des buts. C'est peut-être ça le premier mandat là, qu'on veut lui demander?
Oui, écoute, Mario est au courant dans la situation dans laquelle il s'en vient aussi. On va continuer avec notre plan qu'on avait en place. Puis, non, c'est certain qu'avec une siège de 4 victoires, 16 défaites. Puis, comme je le disais tantôt, c'est surtout les pointages là, qui sont inquiétants, les 9-0, les 7-0, les 6-1. C'est des grosses marques. On donne beaucoup de lancers présentement. On a déjà 6 matchs avec 50 lancers plus. Il y a une certaine job à faire aux côtés de la défensive, ça c'est certain. Puis je pense que Mario, il sait dans quoi qu'il s'embarque, puis il s'en initie avec les bonnes intentions. Puis je suis vraiment pas inquiète qu'il va remettre l'équipe droite, puis de là, ben, on va continuer notre plan de reconstruction.
Sylvain Couturier, avant de te laisser aller, on est à peu près à un mois du début de la période des transactions. Tout le monde sait dans la Ligue junior majeure du Québec que Noah Dobson va être échangé. Ça fait partie de la relance de l'équipe. Est-ce que le téléphone sonne beaucoup présentement?
Oui, écoute, ça a commencé. Honnêtement, on est de bonheur, mais c'est tôt dans la période de transaction, mais le téléphone sonne. Puis pour nous, à batteurs, on le dit, puis on s'en cache pas. On écoute à toutes les offres, puis on veut relancer l'équipe le plus rapidement possible, puis retourner où on était. Donc on veut pas se tromper. On est le plus petit marché dans la Ligue canadienne de hockey, dans la Ligue générale du Québec. Puis je pense qu'il faut faire les choses de la bonne manière, puis des fois faire un pas du pas en arrière pour avancer plus vite. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, nous, dans notre cas, puis on va étudier toutes les offres.
Ben écoute, merci beaucoup Sylvain d'avoir pris le temps. Bonne chance avec votre relance. Bonne chance à Mario Durocher. En tout cas, chose certaine, d'expérience, lui, il en a, il n'y a pas de problème. T'en as toi aussi comme directeur général. Alors, on va vous souhaiter que les choses, comme on dit, se replacent pour le Titan à Batters. Merci beaucoup Sylvain.
Merci, Sylvain.
Voilà, donc c'était Sylvain Couturier, directeur général du Titan d'Acadie Batters. Le Titan qui a une fiche de 4 victoires, 16 défaites, un revers en bris d'égalité. Donc, 4 victoires en 21 matchs. Ce qui est inquiétant, l'équipe a accordé 102 buts, n'en a marqué que 44. Alors, figurez ça, là, 44 buts en 21 matchs, c'est à peu près 2 par match. Sauf qu'il y a deux rencontres que le Titan a gagnées cette année. Une rencontre où on a marqué 10 buts et une rencontre où on a marqué 7 buts. Donc, 17 buts dans ces deux victoires-là. Alors, soustrayons 44 moins 17 de ces deux matchs-là. On se retrouve à 27 buts dans les 19 autres matchs. Imaginez, seulement 27 buts marqués en 19 rencontres. C'est évident que c'est difficile de gagner des matchs à Batters. Noah Dobson, si bon soit-il depuis son retour du camp des Islanders de New York, oui, c'est probablement le meilleur défenseur de la Ligue. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais il ne peut pas tout faire seul, évidemment. Et depuis le début de la saison, ben, il se retrouve avec une fiche quoi de moins 22. C'est pas évident là, pour un bonhomme comme Noah Dobson. Je regarde sa fiche, ouais, c'est ça. 6 buts, 6 passes en 19 matchs et moins 22. Alors, c'est évident que c'est difficile dans le cas de Noah Dobson, mais ça n'enlève rien. Il devrait faire partie de l'aventure d'équipe Canada Junior. Là, ça fait aucun doute là-dessus. Autre nouvelle dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ben, ce soir à Sherbrooke, c'est le premier de deux matchs contre l'équipe de la Russie qui va compléter sa tournée canadienne ce soir à Sherbrooke et jeudi à Drummondville. Hier, les Russes l'ont emporté 4-0 à Oshawa. J'étais là d'ailleurs pour ce match. Donc, ça égale la série 2-2. Il y avait eu une victoire et une défaite contre les équipes de la Ligue de l'Ouest en début de semaine passée. Et une victoire et une défaite également contre l'Ontario. Alors ce soir, donc l'équipe russe à Sherbrooke et jeudi à Drummondville. L'équipe russe qui sera bonifiée de quelques joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont Ivan Tchekovic du Drakkar de Bécomo, qui a connu son troisième match de 5 points en fin de semaine à Val-d'Or. Il en a d'ailleurs profité pour prendre le premier rang des pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Cet espoir là, des Sharks de San Jose connaît une excellente saison, il faut être honnête. 19 buts, 18 passes, 37 points en 22 matchs. L'attaque du Drakkar de Bécomo est redoutable. Nathan Légaré continue sur sa lancée, 33 points en 22 matchs. Gabriel Fortier, 27 points en 22 matchs. Yaroslav Alexeyev, 25 points en 22 matchs. Alors, pas surprenant de voir le Drakkar là, au troisième rang du classement général depuis le début de la saison. Un seul point derrière Rouyn-Noranda et Moncton. Il y a eu un match remis en fin de semaine également à Boisbriand. On a eu des problèmes de compresseur samedi. Alors, les Huskies de Rouyn-Noranda ont fait un voyage en blanc. On va reprendre ce match-là en janvier, à la mi-janvier, pour la visite des Huskies contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Jeudi dernier, je me suis rendu à Victoriaville. J'ai vu le match entre les Sea Dogs de Saint-John et les Tigres de Victoriaville. Si à Batters, c'est difficile en ce début de saison, au lendemain de la Coupe Memorial, on peut dire que c'est extrêmement difficile à Saint-John aussi, où on n'a que 2 victoires en 22 matchs. Dernier rang du classement général, seulement 49 buts marqués, 133 d'accordés. C'est une équipe qui est extrêmement jeune, les Sea Dogs de Saint-John. J'ai eu la chance de discuter avec Josh Dixon, l'entraîneur de l'équipe. Il disait, on est pris dans une section des Maritimes assez compétitive cette année, avec Halifax qui reçoit la Coupe Memorial, avec Moncton qui voulait avoir la Coupe Memorial aussi, puis qui a un très bon début de saison. Il disait, avec le Cap-Breton également, qui est une bonne équipe. Alors, on est pris à jouer contre ces formations-là. En plus, ils ont dû se taper un voyage de 6 matchs au Québec la semaine dernière en raison de la présentation du défi mondial des moins de 17 ans à Saint-John. C'est vraiment difficile en ce moment pour les Sea Dogs. Et honnêtement, oui, il y a du talent. Il y a des bons jeunes de 16 ans qui sont là, qui vont devenir bons. Mais j'ai l'impression que la saison va être longue du côté des Sea Dogs. Deux victoires en 22 matchs seulement. Donc, 18e au classement général, derrière le Titan des Caddy Batters qui a procédé à un changement d'entraîneur qui est au 17e rang. Je vais glisser un petit mot. Hier, à Toronto également, c'était l'intronisation au Temple de la renommée de nouveaux membres, dont Martin Brodeur, qui a fait les beaux jours du Laser de Saint-Hyacinthe à l'époque, au début des années 90, qui a été un gardien solide dans la LHJMQ pendant 3 ans. Évidemment, son intronisation ne faisait aucun doute là, au Temple de la renommée. Alors, c'est un autre ancien de la Ligue junior majeure du Québec qui fait son entrée au Temple de la renommée. Alors, je voulais saluer la carrière de Martin Brodeur, qui, il faut le dire, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, n'avait pas rien cassé avec le Laser de Saint-Hyacinthe, n'avait pas réussi à jouer pour l'équipe Canada junior, n'avait pas réussi à conduire son équipe à la Coupe du Président. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a jeté les bases d'une carrière dans la Ligue nationale tout simplement phénoménale avec les Devils du New Jersey en grande partie. Alors, je voulais saluer Martin Brodeur également. J'ai glissé un mot du défi mondial des moins de 17 ans. Ça s'est terminé samedi par la victoire en grande finale de la Russie qui a remporté la médaille d'or. Une première depuis 2014 pour la Russie qui a battu la Finlande en finale. La Finlande qui, elle, visait un premier titre depuis 1990. Pour ce qui est des trois équipes canadiennes, ça avait été très bien dans la phase préliminaire. Le Canada blanc, Canada rouge, Canada noir. On avait gagné des matchs. On avait terminé au haut du classement dans chacun des groupes. Mais finalement, il y a deux des équipes, les Noirs et les Blancs, qui se sont inclinés en quart de finale, donc ont dû se contenter des 5e et 6e places. Et pour ce qui est de l'équipe des Rouges, elle avait gagné son match quart de finale en prolongation contre les États-Unis grâce à un but de l'attaquant Elliott Desnoyers des Wildcats de Moncton. Mais l'équipe dirigée par Louis Robitaille des Tigres de Victoriaville s'est finalement inclinée en demi-finale et s'est inclinée également dans le match de la médaille de bronze pour terminer au 4e rang. Donc, ça a été un bon match, le match de la médaille de bronze, mais on a perdu ça en tir de barrage. Donc, les trois équipes canadiennes, le bilan cette année, première exclusion du podium depuis 2014 sous la formule actuelle, ça fait 5 ans. Le Canada qui termine donc 4e, 5e et 6e. Et la grosse, grosse déception de ce tournoi, ça a été l'équipe américaine qui a pris le 8e et dernier rang, qui s'est incliné contre la République tchèque dans le match de positionnement. Alors, un an après avoir gagné la médaille d'or, les Américains, cette année, nous nous retrouvons avec une 8e place pour les États-Unis. Le défi mondial des moins de 17 ans, évidemment, c'était des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Ce sont des joueurs quand même de 16 ans, d'âge midget. Parlant de la Ligue midget 3A, ben, la grande nouvelle dans la dernière semaine, ça a été la nomination d'un nouveau président pour succéder à Denis Bayarger, qui, on le sait malheureusement, est décédé l'été dernier. Et le nouvel élu, ben, c'est notre collègue Yannick Lévesque de RDS, que les gens connaissent bien, notamment avec l'émission Hors-jeu. Yannick, premièrement, félicitations. Merci de prendre le temps de nous rejoindre un peu sur notre balado-diffusion.
Ben, ça fait plaisir, Stéphane. Ça va bien?
Ben oui, ça va bien, toi. Écoute, Yannick, les gens ne le savent peut-être pas, là, mais moi, je suis quand même un vieux de la vieille. La Ligue Midget 3, ça fait longtemps que tu œuvres dans ce circuit-là. Pour raconter un peu l'anecdote aux gens, Stéphane Leroux était un étudiant en communication à Jonquière. Il travaillait pour ce qui s'appelait à l'époque les Cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Midget 3.
C'est vrai.
Et je voyageais avec l'équipe, moi, pour faire les statistiques, pour faire des petits reportages dans les entraques à la radio. Et quand on allait affronter les riverains du Richelieu à Sorel, qui était des grosses équipes de la Ligue Midget 3 à l'époque. Yannick Lévesque était déjà là comme analyste à la radio avec Michel Lacroix, notre autre collègue à RDS. Yannick, tu avais quel âge à ce moment-là quand on s'est connu là, à la fin des années 80?
Ben, écoute, j'ai commencé, Stéphane, avec les riverains en 1989, donc j'avais 16 ans. J'étais tout jeune, là. Je commençais là, à peine. J'ai travaillé avec les riverains, puis je me rappelle très bien d'ailleurs quand on s'est connus, et à chaque fois que j'allais du côté de Jonquière également au Palais des Sports, on était toujours assis un à côté de l'autre, puis par la suite, tout est parti pour RDS. Écoute, j'étais assez jeune, là. C'est de beaux souvenirs, puis j'étais avec les riverains jusqu'en 1999.
Bon, ça, c'est la partie que les gens ne connaissaient peut-être pas. Là, on t'offre la... Comment ça s'est passé, là, la succession de Denis Bayarger? On t'a approché, t'as manifesté un intérêt. Ouais. Comment ça s'est déroulé?
Ben, en fait, comment ça s'est passé, Stéphane? C'est assez simple. Depuis, je te dirais, une bonne dizaine d'années, j'ai toujours gardé des liens très près, toujours fait des petites choses avec la Ligue Midget 3A, tantôt des matchs sur le web là, avec la RDS.ca, des matchs de la coop. J'ai animé quelques soirées. J'ai toujours été quand même impliqué, donc j'avais un lien. J'allais voir une dizaine de matchs par année. Et cet été, bon, tu sais, Denis, malheureusement, est décédé là, des suites d'une longue maladie. J'ai rencontré quelques personnes du circuit qui ont tenté un petit peu le terrain. Puis, il y a à peu près un mois, j'ai reçu un appel de Georges Marien me demandant si j'avais de l'intérêt à m'impliquer auprès de la Ligue comme président. J'ai pris quelques journées pour y penser, en discuter évidemment avec ma conjointe, la famille, les enfants, avec mon employeur aussi, avec Charles RDS, puis... Et j'ai décidé de me lancer. J'ai dit oui, c'est un beau défi. Je suis jeune, 45 ans. Je peux être là pour quelques années. Ça va être le fun. Il y a des gros projets qui s'en viennent. Il y a des années assez intéressantes devant nous là, pour la Ligue Midget 3. Donc, j'ai décidé de m'impliquer. Puis, on connaît la suite. Ben là, il y a eu quelques rencontres. J'ai passé une entrevue avec quelques gouverneurs. Et par la suite, ben il y a eu un vote au bureau des gouverneurs la semaine dernière, mardi dernier. Et j'ai été officiellement élu mardi en soirée.
Yannick, quels sont les dossiers peut-être que tu aimerais travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois là, pour assurer, je veux dire, la bonne continuité du travail effectué par Denis Beyerger?
Bien, évidemment, la première des choses, puis je l'ai répété là, à tout le monde la semaine dernière, là, il va falloir que je prenne le temps de bien m'imprégner de tous les dossiers, de me remettre dans le bain, parce que la Ligue Midget 3, c'est un circuit qui... assez majeur au Québec, existe depuis 1976. Donc, il y a déjà du bon travail et des bons dossiers qui sont en cours. Donc, je vais prendre le temps de me remettre dans le bain. T'avouer que j'aurais peut-être souhaité avoir la première journée que j'ai eue la semaine dernière avec, on sait ce qui est arrivé du côté de Châteauguay. Là. C'est venu un petit peu bousculer ma première semaine. Mais je pense que tout le monde a bien réagi dans ce dossier-là, tant du côté des Grenadiers, de la Ligue que de Hockey Québec. Donc là, je vais prendre le temps de Il faut, c'est certain qu'une des premières choses à mon agenda, c'est le challenge qui s'en vient, le challenge de la Ligue qui aura lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ville de la Baie, à la mi-décembre. Par la suite, ben, il y a plein de dossiers. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté. Il y a de plus en plus de discussions là, qui tournent alentour du hockey scolaire, le Midget 3A. Les joueurs ont de plus en plus d'options devant eux. Donc, il faut regarder tout ça. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec mon collègue Mathieu Dache là-dessus. Donc ça, c'est un des dossiers. Puis un des gros dossiers, Stéphane, qui s'en vient, ben, c'est pas pour avril 2019, mais pour avril 2020. Assurément, ben, c'est la Coupe TELUS qui aura lieu du côté de Saint-Hyacinthe, présentée par les Gaulois et la Ligue Midget 3. Donc ça fait partie là, de mes priorités pour les prochaines semaines.
On a présenté en fin de semaine à RDS le défi mondial des moins de 17 ans. Je disais aux gens qui ne le savaient pas que c'est un tournoi qui a été inventé au Québec. D'ailleurs, Denis Beyerger avait eu beaucoup à dire dans la première présentation de ce tournoi-là en 1986. Le trophée qu'on remet aux champions de ce tournoi-là s'appelle d'ailleurs la Coupe Québec. Mais c'est un tournoi qui nous a un peu échappé. Je dirais même, je vais mettre le mot en guillemets, là, que Hockey Canada nous a un peu volé si, d'une certaine façon. Il y a quelques années, Jérôme Maisonneiro à Victoriaville avait réussi à ramener le tournoi au Québec en 2013, au moment où Connor McDavid avait 15 ans. Là, le tournoi avait eu lieu à Victoriaville, à Drummondville. Est-ce que ça, c'est à moyen terme un dossier aussi sur lequel on pourrait travailler, de ramener peut-être ce tournoi-là quelque part au Québec?
Ben, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que j'en ai parlé la semaine passée. Je pense que c'était avec tes collègues au 98.5, puis je disais que c'est le genre d'événement. Moi, je me rappelle, plus jeune, d'assister à des matchs de la Coupe. À l'époque, c'était la Coupe Québec SO, tu te rappelles de ça.
Ouais.
C'était présenté un peu partout au Québec. Il y avait des matchs. Bon, il y en avait dans mon coin, au Colisée Cardin. Ouais. Il y en avait à Saint-Jérôme. Il y en avait dans les marchés aussi, autres que la Ligue Midget 3A. Puis, je trouve ça de valeur qu'on n'ait pas la chance de voir ces matchs-là plus souvent. Bon, tu l'as dit, il y a eu Victo et Drummond il y a quelques années. Mais oui, c'est un dossier que j'aimerais regarder avec Hockey Québec et Hockey Canada pour ramener peut-être cette compétition-là, au moins peut-être aux 2 ans au Québec. Mais on sait que c'est une grosse machine, c'est évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, ça prend de l'argent également. Mais c'est un événement qui a vu le jour au Québec, qu'on pourrait ramener au Québec. Puis de toute façon, quand je regarde, j'ai regardé certains des matchs en fin de semaine à RDS, là, des arénas, là, puis là, c'était du côté de l'Ontario. T'sais, je pense pas qu'on aille gêné. On pourrait, je pense, assurément présenter ici des matchs avec plusieurs spectateurs dans les estrades et de faire profiter les partisans de hockey junior, de hockey midget 3A, de pouvoir voir les meilleurs joueurs sur la planète s'affronter dans cette compétition-là. Et oui, c'est certain que je vais regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus pour pouvoir présenter cet événement-là. Peut-être pas de façon annuelle, là, mais à tout le moins biannuelle au Québec.
Écoute, en 1990, puis on en a montré des images en fin de semaine, c'était la dernière fois que la Finlande avait gagné le tournoi. La finale avait eu lieu à Saint-Jérôme. C'était la troisième édition à l'époque parce que c'était un tournoi qui était présenté aux 2 ans. Et on a ressorti les images de la finale Québec-Finlande et on regardait les alignements des équipes qui avaient joué dans le tournoi. Bon, pour la Finlande, il y avait des bonhommes comme Jiri Lehtinen qui avait été un des bons joueurs de la Finlande. Du côté québécois, Martin Lapointe était dans le tournoi à l'époque, Patrick Poulin également. Et du côté des Russes, puis moi je m'en rappelle parce que j'avais travaillé un peu dans ce tournoi-là, il y avait un numéro 27 qui s'appelait Alex Kovalev à l'époque. Alors évidemment, il était pas connu encore, tu sais, mais c'est pour donner une idée aux gens que les joueurs qui passent dans ce tournoi-là. Écoute, il y a 2 ans à peine, Jesperi Kotkaniemi jouait dans ce tournoi-là. Et là, il est rendu dans la Ligue nationale. Alors c'est pour ça que c'est le fun de voir ces matchs-là puis ces jeunes-là jouer.
Puis en plus, Stéphane, de nos jours, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux, c'était très différent. Donc, les joueurs arrivaient, on connaissait personne. Maintenant, ben des joueurs qui arrivent dans ces tournois-là, ben ça fait déjà un bout de temps que tu nous en parles. Donc, on les connaît déjà, tu les connais, tu nous les présentes. On le sait que certains vont devenir des premiers choix repêchage, des choix de première ronde. Donc ça, c'est encore plus intéressant pour les partisans d'avoir la chance de voir ces jeunes-là sur la patinoire.
Ben écoute, Yannick, on va te souhaiter bonne chance dans ces nouvelles fonctions-là. Moi, je t'ai écrit un petit message quand c'est arrivé. J'ai dit, ben au moins, ils ont mis ça dans les mains de quelqu'un qui est impliqué dans la Ligue, qui connaît ça depuis longtemps. Alors, c'est merveilleux. Mais t'as quand même des gros souliers à chausser, là, parce que Denis Bayarger, Ligue Média 3A, c'était son bébé, comme on dit. Il a été président longtemps, 2 mandats. Et on va te souhaiter bonne chance, Yannick, pour la suite des choses.
Super gentil, Stéphane. Tu sais que Denis, effectivement, tu connais mon admiration que j'avais envers cet homme-là, avait réussi à monter une équipe du tonnerre également, Georges Marin et toute son équipe. Donc ça, c'est un des avantages qui a fait que j'ai accepté aussi parce que cette équipe-là est en place. Elle est bien rodée. Il y a des bons bénévoles également au sein des organisations. On va travailler tout le monde main dans la main pour avoir le plus grand des succès.
Merci beaucoup, Yannick, puis à très bientôt. Bonne chance.
Merci Stéphane, au plaisir.
Voilà, Yannick Lévesque, notre collègue à RDS, mais surtout le nouveau président de la Ligue Média 3. Là, juste pour clarifier certaines choses, à un certain moment, Yannick a fait allusion dans l'entrevue à un dossier à sa première journée de la présidence qui est survenu à Châteauguay. Je ne veux pas entrer dans les détails, là, mais certains l'ont vu. Il y a l'entraîneur-chef des Grenadiers de Châteauguay là, qui a été accusé là, de certains gestes à caractère sexuel. Puis évidemment, ben on a fait les ajustements là, qui s'imposaient. Et le nouvel entraîneur de l'équipe est maintenant Éric Lecomte, un ancien choix de première ronde de la LHGMQ, un ancien choix de première ronde également dans la Ligue nationale. Deux nouvelles, évidemment, on ne peut pas passer à côté au niveau de la Ligue Média 3 cette semaine. Les Commandeurs des Lévis, 2 autres victoires, ils sont rendus à 22 victoires de suite pour amorcer la saison. Le record est déjà battu, c'était 16 victoires en début de saison, et ça, c'est dans la poche depuis un bon moment. Et là, on va s'attaquer au cours des 3 prochains matchs au record absolu qui appartient au gouverneur de Sainte-Foy de 1984-1985, qui avait gagné 25 matchs de suite. Alors, les 2 prochains matchs en fin de semaine des Chevaliers à l'Aréna de Charny, vendredi soir, contre le Blizzard du séminaire Saint-François, qui, somme toute, la nouvelle appellation des gouverneurs de Sainte-Foy de l'époque. Alors, c'est un programme double en fin de semaine contre le Blizzard, vendredi à Charny et dimanche à Saint-Augustin. Si on passe ces 2 matchs-là, après ça, il y a un week-end de congé pour les Chevaliers de Lévis. Ça va nous mener au 30 novembre, alors que les Vikings de Saint-Eustache pourraient être l'équipe serait là pour égaler le record de 25. Mais évidemment, il y a 2 gros matchs en fin de semaine contre le Blizzard. Ce ne sera pas facile. C'est une bonne rivalité pour Lévis. La semaine dernière, dans notre balado-diffusion, on vous avait présenté un petit extrait d'entrevue avec la gardienne de but du Phoenix du Collège Esther Blondin, Eve Gascon. Elle nous disait qu'elle avait hâte à sa première victoire. Ben, c'est finalement arrivé. Elle a gagné son premier match vendredi dernier. Donc, elle devient la première jeune fille à gagner un match au niveau de la Ligue Midget 3A. Elle qui est une des 2 gardiennes de but avec le Phoenix du Collège Esther Blondin. Hey, avant de se laisser, je vous disais en début d'émission que je suis allé faire un petit tour en Ontario. On s'est entretenu notamment dimanche après-midi à Owen Sound avec l'attaquant Nick Suzuki, acquis dans cette transaction par Marc Bergevin avec Las Vegas en retour de Max Pacioretty. Ce soir à Hockey 360, il y aura un reportage complet là, sur cette visite à Owen Sound qu'on a fait à Nick Suzuki. Mais question de vous mettre un peu l'eau à la bouche, voici quelques extraits de cette entrevue puis on fera une petite traduction par la suite.
I'm definitely happy with how we've been playing lately. I think our start to the season wasn't what we expected, and we're picking it up a lot in the last few weeks here. It's pretty weird to be traded from an NHL team to another, and I just try to take it as positive thinking, and I know Montreal really wants me, and it's good to be with them and get to know everybody in the organization. It's great to be going to Montreal and having that huge market. They've been a successful team for a ton of years, and to be with that organization is really special, and I want to take full advantage of being there. I had a feeling that there was a slight chance, but they had such a good season last year, and a lot of the guys were returning, so I didn't really know my chances there. And once I got traded, I thought I had a bigger chance, but they just wanted me to come back to junior and keep developing, and I'm good with both ways.
Alors voilà des extraits de cette entrevue qu'on a réalisée dimanche avec l'attaquant Nick Suzuki. Peut-être pour résumer ses propos, la dernière question, il disait lorsqu'il s'est présenté à Vegas pour le camp, il savait que ce serait probablement difficile de se tailler une place avec l'équipe. Lorsqu'il a appris la transaction, il s'est dit que peut-être à Montréal, il y avait une ouverture. Il s'était pas trompé, sauf que c'est Jesperi Kotkaniemi qui est sauté sur cette ouverture. On lui a dit qu'on aimait mieux qu'il revienne dans le junior, qu'il continue à se développer. Puis il dit c'est bien correct avec moi. Il en venait pas encore, même après presque deux mois là, d'avoir été échangé contre un bonhomme comme Max Pacioretty, un joueur de la Ligue nationale. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Par contre, heureux de se retrouver dans un marché de hockey. Ça, c'est une phrase qu'on a entendue également de la part de Max Domi cette saison. Le passé de Las Vegas à Montréal, c'est quand même différent. C'est un bonhomme, appréciation personnelle, extrêmement sympathique, un peu réservé. C'est pas un gars qui parle très fort. Je discutais avec son entraîneur Todd Gill à Owen Sound. Il me disait, il parle pas souvent. C'est lui qui a le C du capitaine à Owen Sound. Il parle pas nécessairement souvent, mais quand il parle, on l'écoute. C'est un gars qui prêche par l'exemple. Puis dimanche après-midi, c'est certain que l'opposition était pas très forte. Là, les Otters d'Erie étaient les visiteurs à Owen Sound, mais petit après-midi tranquille au bureau, un but, deux passes, première étoile du match. Et quand il est sur la patinoire, c'est vraiment lui là, qui contrôle le... En anglais, on dit le pace de la game, le rythme un peu. Ça tourne beaucoup autour de lui. Alors, c'est un excellent joueur. Puis quand on regarde cette transaction-là dans l'ensemble, en ce moment, on verra la suite, évidemment, là, mais en ce moment, le Canadien semble avoir vraiment le déçu. Tomáš Tatar fait du bon travail avec le Canadien depuis le début de la saison. Déjà, quoi, une quinzaine de points, alors que pour Pacioretty, c'est difficile à Vegas. Ça va sûrement se replacer. Mais peu importe ce que Pacioretty fera à Vegas, d'être allé chercher Tatar, d'être allé chercher Suzuki, qui est un des meilleur joueur junior au Canada présentement. Avec l'attaque d'Owen Sound, il a 30 points en 18 matchs. Il est au 9e rang des marqueurs de la Ligue junior de l'Ontario. Et il ne faut pas oublier le choix de deuxième ronde également que le Canadien est allé chercher. Hier, quand j'étais à Oshawa, je discutais avec un recruteur d'une autre équipe de la Ligue nationale qui me disait « Hey, Suzuki, un pour un contre Pacioretty, ça aurait déjà été un bon échange. » Alors, d'aller chercher un gars comme Tatar, d'aller chercher un choix de deuxième ronde, c'est quand même intéressant. Alors, oui, c'est facile de, comme on dit, donner des coups de masse sur la tête du DG quand ça va pas bien. Quand on réussit un bon coup, je pense qu'il faut en parler aussi. Et moi, j'aime beaucoup Nick Suzuki. Il devrait être un élément important là, pour l'équipe Canada Junior au cours de la période des Fêtes. L'an dernier, à 18 ans, avait été retranché. J'étais là dans le lobby là, à St. Catharines, en Ontario, lorsqu'il était arrivé. Évidemment, il était piteux et tout ça. Mais cette année, je pense qu'il va prendre, il va faire tout ce qu'il faut pour se tailler une place dans cette équipe-là. On peut l'utiliser sur un trio offensif, sur un trio défensif. Alors, je pense que ça va être intéressant. On reparlera tout ça dans notre reportage ce soir à Hockey 360. Alors, voilà un peu ce qui complète notre résumé de la semaine. On avait beaucoup de matériel cette semaine. Alors, on s'excuse de 24 heures de retard, mais je pense que ça valait la peine. Au lieu de mettre en ligne le lundi, on va mettre en ligne le mardi. Je vous annonce tout de suite que la semaine prochaine, on fait relâche. L'animateur a décidé de prendre une petite semaine de congé. Alors, on sera de retour le 26 novembre pour notre balado-diffusion sur la glace. Je remercie Yannick Lévesque, nouveau président de la Ligue Midget 3A, Sylvain Couturier, directeur général du Titan d'Acadie Batters, Raphaël Doucette, notre collaborateur pour les matchs du Rocket, qui se sont joints à nous ce matin. Merci à Nick Suzuki pour l'entrevue également dimanche. Des reportages complets ce soir à Hockey 360. Merci à Luc Dansereau à la technique. Vendredi, RDS vous présente en direct le match entre Bridgeport et Laval, en direct de la Place Belle à Laval. Et moi, je vous retrouve pour la balado-diffusion le 26 novembre prochain. Merci, au revoir.